l'histoire.
Franck Ferrand.
Je disais à Wendy tout à l'heure au moment du passage d'antenne que j'étais en train de déplier des affiches. En effet, il se trouve que l'un des ouvrages qui est paru aux éditions Les Arènes, qui s'appelle « Les magiciens du cinéma, Carnet, Prévert, Trauner », propose une sorte de grande enveloppe dans laquelle sont toutes sortes de facsimilés. Il y a des extraits de scénarios, il y a des photos de films, il y a des petits dépliants de promotion au moment de la sortie des films. Et puis donc ces magnifiques affiches qui nous replongent dans, on peut dire, dans notre culture, non seulement cinématographique, mais on peut dire que c'est vraiment le patrimoine de la France. Est-ce que vous saviez que Jacques Prévert, au total, aura travaillé sur plus d'une centaine de projets de films, courts et longs métrages confondus, dont une soixantaine ont réellement vu le jour, ou en tout cas ont vu l'obscurité des salles? Alors, sans vouloir ni diminuer le mérite ni minimiser le travail de l'auteur, il faut peut-être que je commence par vous dire que Jacques Prévert est né dans le sérail, tombé enfant dans la marmite cette saison, qu'il a grandi en même temps qu'un septième art qu'on n'appelait pas encore ainsi, un cinéma muet relevant de la pantomime, de l'attraction de foire et du rêve pur. Tout Prévert, en somme. Son père est critique dramatique et il se trouve qu'il s'intéresse de très près à ce qu'on appelle encore le cinématographe. Alors il emmène souvent avec lui le petit Jacques au cinéma et c'est l'émerveillement de cet enfant qui paraît né pour s'émerveiller. Voilà ce qu'il racontera lui-même en novembre 1967. « Enfant, j'aimais déjà et beaucoup le cinéma. J'y allais souvent, très souvent. Cela ne coûtait pas cher et le jeudi, je trouvais parfois le moyen de passer inaperçu et de m'asseoir face à l'écran en qualité de spectateur clandestin. Les années passaient et les films en même temps, c'est en ce temps-là que j'ai vu Le Vautour de la Sierra, Morgan le Pirate, Charlot, Tom Mix, Ryoji, Arizona Bill, Spartacus, Protea, Rocambole, Zygomar et un beau soir. » Fantomas. Fantomas, c'était le maître de l'épouvante, mais Louis Feuillade, je l'appris plus tard, au studio comme dans la rue, était le maître de Fantomas, et surtout un des maîtres du cinéma primitif, régi par les lois foraines et merveilleusement neuf, populaire, vivant. Les personnages, ajoute Jacques Prévert, les héros de ces films surgissaient de l'extraordinaire, sortaient, s'évadaient de l'ordinaire, et l'ordinaire d'alors, c'était avec les actualités de la guerre de 14, la fille du Boche, Debout les morts, Dette de haine, le héros de l'Isère, la maison du passeur ou mort au champ d'honneur. Avec Fantomas, avec les vampires, on mourait ailleurs et l'on tuait tout autrement, insolitement, ingénument. Aujourd'hui, cette guerre de 14 est finie, l'autre aussi, et la grande tuerie mondiale fait des progrès remarquables. Mais les films de Louis Feuillade, c'est toujours tout nouveau, tout beau, comme avant, et en couleur, et parlant, parlant en gris, en noir, en blanc, avec la troublante éloquence du rêve, l'espéranto du silence. Je pense que mieux que tous les discours, un petit texte comme celui-là nous donne une idée de l'incroyable agilité verbale de cet homme qui vous envoie, si j'ose dire, constamment des images à la figure. Prévert à 20 ans, c'est facile, hein, parce qu'il est né en 1900, donc il fait partie de ces gens dont il est toujours très facile de savoir quel âge ils ont. Il est incorporé en 1920 au service militaire, donc c'est là qu'il rencontre celui qui deviendra le peintre surréaliste Yves Tanguy. En 21, le voilà expédié à Istanbul, où il rencontre Marcel Duhamel. Marcel Duhamel est un intellectuel, si je puis dire, un éditeur, traducteur, scénariste, acteur lui-même. Et c'est de là ce lit d'amitié. Jacques rentre à Paris en 1922 et 2 ans plus tard, Duhamel se voit confier par son oncle la direction d'un petit hôtel au 54 de la rue du Château, donc dans le 15e arrondissement. J'y habitais, moi, dans cette rue, donc je la connais bien. Il y a toute une atmosphère à la Trauner, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Il va en profiter pour loger ses amis qui deviennent locataires de la rue du Théâtre, Jacques Prévert et Yves Tanguy. sont là. Alors c'est l'origine de toute une petite communauté de bons copains vaguement bohèmes, des peintres, des poèmes sous le toit de Duhamel. Il y a parmi eux Raymond Queneau, Pablo Picasso, Alberto Giacometti. Vous imaginez, tout ça fait rêver. C'est un de ces moments bénis, comme on propose parfois l'histoire de Paris. L'adresse devient peu à peu le repère du groupe surréaliste. C'est là qu'on fait les fameux cadavres exquis, vous savez. Alors on retrouve rue du Théâtre, Artaud, Breton, enfin ils sont tous là. Et Prévert, Prévert est un peu, si je puis dire, le mouton noir dans la bande. C'est un homme très indiscipliné, il n'est pas fait pour se trouver fondu dans un groupe. Et d'ailleurs, en 1930, pour s'être sans doute trop ouvertement opposé à André Breton, le voilà exclu. Cette expérience surréaliste n'est pas perdue pour autant, car c'est elle qui va permettre à Prévert de mettre un pied dans le cinéma, professionnellement, je veux dire, parce que pour le reste, vous avez bien compris qu'il y est déjà depuis longtemps et tout entier. Rue du Théâtre, on écrivait beaucoup. Or, en 28, Jacques a écrit le scénario d'un long métrage, Le Trésor, le bateau mouche pirate de Max Maurice, avec il y avait Raymond Queneau, Robert Desnos, enfin tout ce monde-là hein, dans la petite bande des auteurs. Marcel Duhamel a un projet d'agence de scénario. L'idée, c'est de créer une sorte d'atelier de scénario, si vous voulez. Ça ne verra finalement pas le jour. C'est à cette époque également que Jacques travaille avec son frère Pierre, qui a 6 ans de moins que lui. Il a l'âge de Marcel Carnet, il est né en 1906. Il est le premier de la famille à travailler dans le cinéma, puisque lui est projectionniste. Alors, c'est le moment où Jacques va faire ses vrais débuts dans le cinéma, d'abord avec une co-réalisation avec Marcel Duhamel et Pierre Prévert, Souvenir de Paris, qu'on connaîtra mieux sous le titre de Paris Express, un hommage à la beauté de Paris incarnée par les Parisiennes, et puis plus tard, les trois amis vont retoucher ce film en noir et blanc. Ils y ajouteront des musiques, des commentaires, de Prévert bien entendu, des images en couleur du Paris de l'après-guerre, et ce sera Paris la Belle. Ça, c'est en 1959. Pierre Prévert propose à Jacques, son frère, afin de lui permettre de mieux gagner sa vie, d'écrire ou de réécrire des scénarios. Et on va le voir au générique d'un certain nombre de films, bien entendu. Jacques Prévert a tellement le virus qu'il a fait discrètement l'acquisition lui-même d'une caméra amateur, et on le voit tourner des films comme ça, notamment dans la banlieue est de Paris. Il va faire un petit film de 15 minutes qui s'appelle Nos gens, Eldorado du dimanche. Ce film est présenté au studio des Ursulines en première partie. Et l'accueil de la presse est excellent, en tout cas pour un film de débutant. Alexandre Arnaud, dans Les Nouvelles Littéraires, écrit « Ce reportage de la banlieue séduit par sa fraîcheur et son esprit, par la variété des prises de vue et un sens certain de l'humour et de l'atmosphère. » Quant au journaliste Maurice Bessy, voilà ce qu'il écrit à propos de ce coup d'essai de Jacques Prévert. « Un film très agréable, car il est lourd de promesses. » Ah, il n'imaginait pas à quel point.
Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
Et vous continuez, Franck Ferrand, à nous conter la vie de Jacques Prévert.
Oui, alors il aurait fallu quand même que je vous dise un peu que Prévert a fait du théâtre aussi. Il a fondé un groupe qui s'appelait le groupe Octobre, dont il devient le principal auteur. Il écrit des scénettes, on va dire, des espèces de sketchs avant la lettre, si on peut dire, pour la troupe. C'est du théâtre populaire. C'est à ce moment-là qu'il prend vraiment l'envie d'écrire pour mettre dans la bouche de comédiens des textes qui n'appartiennent qu'à lui. Je vous ai dit qu'il avait été contraint de déménager de la rue du Château. Il habitera désormais à Saint-Germain-des-Prés. Il forme son petit groupe au Café de Flore. C'est Simone de Beauvoir qui écrit dans ses mémoires « La petite bande des fidèles qui se rencontrait au Flore n'appartenait ni tout à fait à la bohème, ni tout à fait à la bourgeoisie. La plupart se rattachaient de manière incertaine au monde du cinéma et du théâtre. Leur dieu, leur oracle, leur maître à penser... C'était Prévert. Ils vénéraient les films et les poèmes dont ils essayaient de copier le langage et le tour d'esprit. Il faut vous dire que les films sont de plus en plus remarqués. Alors, pendant toutes les années 30, on va voir Jacques Prévert participer à l'écriture d'un certain nombre de films, comme l'adaptation de l'opérette de Reynaldo Hahn, Ciboulette par exemple, Reynaldo Hahn, Francis de Croisset, Robert de Flers, tout ça réadapté, remodernisé par Jacques Prévert pour la caméra de Claude Autant-Lara. On le verra également adapter une pièce de Feydeau, telle du libre-échange. Il travaillera au scénario du crime de Monsieur Lange pour Jean Renoir, pour les disparus de Saint-Agile de Christian Jacques. Mais là, il ne paraît pas au générique, il ne signe pas. Il faut vous dire qu'il ne signe pas toutes ses participations, Jacques Prévert, parce que parfois, il n'est tout simplement pas d'accord avec ce qui s'est fait. Évidemment. Évidemment, le véritable épanouissement de Prévert au cinéma passe par un autre génie dont j'ai tout à l'heure subrepticement cité le nom, c'est Marcel Carnet, de 6 ans son cadet. Avant de travailler avec Prévert, Carnet était journaliste et assistant réalisateur. Il fait appel à lui pour Jenny en 1936 avec l'inénarrable, l'irremplaçable Françoise Rosay. C'est d'ailleurs Françoise Rosay qu'on retrouvera dès l'année suivante dans un autre film qui vous dit forcément quelque chose, sans doute le film le plus, comment est-ce qu'on pourrait dire, le plus burlesque de l'histoire du cinéma français, Drôle de drame, en 1937. Souvenez-vous.
Bizarre.
Qu'est-ce qu'il a ? Votre couteau.
Comment ?
Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre. Alors je croyais que...
Moi j'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre ?
Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre.
Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Alors évidemment, c'est le duo absolument invraisemblable entre Michel Simon et Louis Jouvet, bizarre dans Drôle de drame. Il faut vous dire que ce film est un peu comme ce que nous avons entendu tout à l'heure, chanté par Yves Montand, hein, en sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer. C'est-à-dire que c'est un coq à l'âne, il y a du surréalisme là-dedans. Vous seriez bien en peine, en regardant Drôle de drame, de trouver un véritable fil conducteur. C'est une histoire, c'est des espèces de sketchs qui s'enchaînent et qui néanmoins ont une vraie cohérence. Et ont la cohérence d'une poésie, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, une poésie parfaitement, il y a un très bel ensemble, hein, il y a un sens du merveilleux dans tout ça. Il faut pas oublier le rôle essentiel des décors de Tronner, d'Alexandre Tronner, qui vont jouer un rôle essentiel dans cette collaboration à trois, en quelque sorte, hein, Marcel Carnet, Jacques Prévert, Alexandre Tronner. Alors, ce sont les très grands films, Quai des Brumes, bien sûr, avec la divine Michèle Morgan et avec Jean Gabin qu'on retrouve l'année suivante. On est là vraiment à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, dans Le Jour se lève. Ça, il faut voir ça, les dialogues entre Gabin et Jules Berry qu'on retrouvera alors dans le grand film tourné sous l'occupation, Les Visiteurs du soir, hein, 1942. Et puis l'autre grand film, alors cette fois à grand spectacle, avec carrément la reconstitution de tout le boulevard du crime tel qu'il pouvait être à la fin de la Restauration en 1827, c'est bien sûr sur Les Enfants du Paradis, tourné en 1943. Ça, c'est... Et toujours au cœur de tous ces films, l'amour, parce que c'est évidemment le sujet principal de toutes ces histoires. C'est toujours des histoires de couples qui vont ou ne vont pas se séparer, hein, c'est la grande question. Voici ce qu'écrivent Jean-Pierre Jeunet, Nguyen Trong Binh et Philippe Morisson dans Les Magiciens du cinéma. Jacques Prévert, pour qui l'amour fou était un leitmotiv artistique, n'a écrit pour Carnet que des histoires où cet amour était entravé par le malheur. En revanche, l'amitié restait également pour le poète une vertu cardinale, essentielle, indestructible dans sa vie comme dans son œuvre. Et Prévert dira lui-même, alors beaucoup plus tard, hein, dans les années 60, « J'écris des histoires d'amour. Or, celles-ci n'ont jamais captivé dans un pays où l'adultère est à la base de 80% des films et des pièces. » Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu fleur bleue dans tout ça, mais c'est tellement beau. Rappelez-vous, dans Les Enfants du Paradis, Pierre Brasseur et, là encore, je disais l'irremplaçable à propos de Françoise Rosay tout à l'heure, l'irremplaçable Arletty.
Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi.
C'est drôle, on dirait que vous avez couru.
Oui, après vous.
Après moi ? Et vous venez à ma rencontre ?
Mais justement, je vous ai vu tout à l'heure. Alors vous comprenez, le choc, l'émotion, le temps de me décider. Et vous étiez déjà loin. Alors ?
Alors ?
Alors, comme j'ai horreur de suivre une femme, j'ai couru pour vous dépasser et précisément venir à votre rencontre. Et maintenant, je ne vous quitte plus. Où allons-nous ?
C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien.
Mais c'est peut-être le même.
Non.
Oh, pourquoi ?
Parce que j'ai rendez-vous.
Oh, rendez-vous ? Destin tragique. Voilà seulement 2 minutes que nous vivons ensemble et vous voulez déjà me quitter. Oh, et me quitter pour quoi ? Pour qui ? Pour un autre, naturellement. Et vous l'aimez, hein, cet autre ?
Oh, moi, j'aime tout le monde.
Eh bien, voilà qui tombe à merveille. Je ne suis pas jaloux. Mais lui, l'autre, il l'est, hein, jaloux.
Est-ce que vous en savez ?
Oh, ils le sont tous, sauf moi. Mais n'en parlons.
On écoutait un extrait des Enfants du Paradis de Marcel Carnet avec Arletty et Pierre Brasseur. Arletty.
Arletty Garant, c'est Frédéric Lemaître, interprété par Pierre Brasseur.
Et je rappelle à nos chers auditeurs qu'ils peuvent réagir à l'émission et nous envoyer leur message par mail sur europe1.fr, sur Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Nous retrouvons Franck Ferrand dans une minute pour continuer à parler de la vie de Jacques Prévert.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et vous continuez, Franck Ferrand, à nous parler de la vie et de l'œuvre de Jacques Prévert.
Et oui, de son œuvre cinématographique notamment, hein, cette collaboration tellement extraordinaire essentiellement avec Marcel Carné. Alors, leur dernier film, ce sera après la guerre en 1950, c'est La Marie du Port, d'après Georges Simenon évidemment. C'est leur dernière collaboration et ça va faire couler beaucoup d'encre, évidemment, leur séparation, si je puis dire. Voilà ce que disait Marcel Carné, justement, en 1965. C'était à Robert Chazal. On a tellement dit de choses inexactes à ce sujet, disait Carné. Ceux qui veulent m'être désagréable disent que sans Prévert, je n'aurais pas fait les films que l'on connaît. D'autres disent la même chose à propos de Prévert. En fait, notre rencontre a été bénéfique, mais il aurait été néfaste pour l'un comme pour l'autre d'éterniser une collaboration qui ne s'imposait plus. Nous avions évolué, chacun de son côté. Il faut, pour collaborer, comme nous l'avons fait, Prévert et moi, une identité de vue et de réaction qui ne peut être un phénomène de très longue durée. En vérité, il y avait une sorte de divorce entre les deux. Et on va y venir dans un instant en compagnie de Jean-Pierre Guénot. Il faut, au-delà de Prévert et Carné, évoquer toute l'équipe, bien entendu, qui contribuait à la mise en place de ce cinéma qu'on va appeler ce cinéma de réalisme poétique, hein, avec la musique, bien sûr, surtout Cosma, avec les costumes, avec les décors dont je parlais tout à l'heure, etc. Et puis les comédiens eux-mêmes. Alors, en 1948, Prévert a un accident, ça aussi on va vous le raconter dans un instant, avec des séquelles qui vont être des séquelles neurologiques assez graves. Dès lors, il n'écrira plus vraiment que de temps en temps pour le cinéma. Après 1948, il se consacrera essentiellement à des dessins animés et à des films pour enfants, dont Le Petit Soldat en 1947 avec Paul Grimaud, La Bergère et le Ramoneur en 48, qui est le premier long métrage d'animation en couleur. Ils seront finalement écartés du projet puisqu'ils réprouvent la chute, hein, ils réprouvent la version finale qu'on a donnée du film. Et puis pour le cinéma, il y aura quand même encore Souvenir perdu de Christian Jacques en 1950, une collaboration avec Jean Delannoy pour le Notre-Dame de Paris adapté de Victor Hugo. Et il y aura aussi Les Amours Célèbres de Michel Boiron, enfin ce sont des collaboration vraiment très ponctuelle. Je vous ai dit un mot de Paris la Belle, qui était donc ce film exhumé des années, du tout début des années 30 et remis à la sauce de 1959. Et puis aussi, ce qu'on a parfois tendance à oublier, des collaborations de Jacques Prévert pour la télévision. Le Petit Klaus et le Grand Klaus en 1964, La Maison du Passeur en 65 et l'année suivante À la Belle Étoile. La dernière participation de Jacques Prévert à une grande œuvre cinématographique. Mais alors, quelle grande œuvre ! C'est sa participation au scénario et au dialogue du grand dessin animé de Paul Grimaud, Le Roi et l'Oiseau, qui ces jours-ci ressort d'ailleurs en DVD. C'est un chef-d'œuvre qu'il faut avoir dans sa vidéothèque. Je vous propose d'entendre évidemment la superbe bande originale.
Un extrait de la bande originale de Roi et l'Oiseau de Killard, un DVD Studio Canal.